Chapitre 6. Avant l'orage. 1. Montant des ténèbres, douloureuse et accusatrice, résonna la voix d'Henry Dean, le grand sage et éminent Chunky.
« Je suis en enfer, frérot! Je suis en enfer! Impossible de me faire un fixe! Et tout ça, c'est ta faute !»«
Combien de temps on va devoir rester là, d'après vous ?» demanda Eddie à Callahan. Il venait juste d'arriver à la grotte de la porte et le petit frérot du grand sage faisait déjà sauter une paire de balles dans sa main, comme des dés. 5, 6, 7, bébé a besoin d'une bonne sieste. C'était le lendemain du grand conseil, et quand Eddie et le père avaient quitté la ville à cheval, la grand-rue leur avait paru anormalement calme. On aurait dit que la calasse se cachait d'elle-même, submergée par ce à quoi elle s'était engagée.
« J'ai bien peur qu'il faille un petit moment, » admit Callahan.
Il s'était habillé avec soin, et espérait-il de manière quelconque. Dans la poche de sa chemise, il avait rassemblé tout l'argent américain qu'il avait pu trouver, $11 chiffonnés et quelques quarters. Il réfléchit à l'ironie de la situation s'il devait débarquer dans une version de l'Amérique où c'était Lincoln qui apparaissait sur les billets $1 et Washington sur ceux de 50.
Mais on peut progresser par étapes, je pense.
Remercions le ciel pour ces petits cadeaux, fit Eddie en tirant le sac rose de derrière la malle de livres de Tower. Il le souleva à deux mains, s'apprêta à se retourner, puis s'immobilisa. Il fronça les sourcils.
Que se passe-t-il ? Demanda Callahan.
Il y a quelque chose là-dedans.
Ouais, la boîte.
Non, quelque chose dans le sac. Cousu dans la doublure. On dirait un petit caillou. Peut-être qu'il y a une poche secrète.
Et peut-être, ajouta Callahan, que ce n'est pas le moment de s'en préoccuper.
Eddie ne renonça pas pour autant à palper le sac. Ça n'avait pas exactement la consistance d'un caillou. Mais Callahan avait sans doute raison. Ils avaient déjà assez de mystère sur les bras comme ça. Celui-ci attendrait un jour. Quand Eddie fit glisser la boîte en bois fantôme du sac, une terreur nauséeuse envahit sa tête et son cœur.
Je déteste ce truc. J'ai toujours l'impression qu'il va s'en prendre à moi et me dévorer comme un taco. Il le pourrait sans doute, répliqua Callahan. Si vous sentez qu'il se passe quelque chose de vraiment malsain, Eddie, refermez ce foutu machin.
Et vous vous retrouveriez coincé de l'autre côté si je faisais ça.
C'est pas comme si j'étais un étranger là-bas, dit Callahan en jetant un œil en direction de la porte dérobée.
Eddie entendait son frère, Callahan sa mère, le harcelant sans relâche en l'appelant Donny. Il avait toujours détesté qu'on l'appelle Donny.
J'attendrai tout bonnement que la boîte se rouvre.
Eddie se cala les balles dans les oreilles.
Pourquoi tu laisses faire une chose pareille, Donny ?
Gémit la mère de Callahan dans l'ombre.
Des balles dans les oreilles, c'est dangereux.
Allez-y, fit Eddie. Faites ce que vous avez à faire. Il ouvrit la boîte, le carillon s'en prit instantanément aux oreilles de Callahan et à son cœur. La porte vers le monde entier s'ouvrit dans un clic. 2. En passant par la porte, il pensa à deux choses, à l'année 1977 et aux toilettes pour hommes du rez-de-chaussée de la bibliothèque publique de New York. Il entra dans une cabine bourrée de graffitis, Bangos Kang était passé par là, dans le bruit de chasse d'eau d'un urinoir à sa gauche. Il attendit que la personne s'en aille, puis sortit lui-même de la cabine. Il ne lui fallut que 10 minutes pour trouver ce qu'il cherchait. Lorsqu'il franchit la porte vers la grotte de la porte, il avait un livre sous le bras. Il demanda à Heidi de l'accompagner dehors, et il n'eut pas à le lui demander deux fois. Dans l'air frais et ensoleillé, balayé par la brise, les nuages de la nuit précédente s'étaient éclipsés. Heidi retira les balles de ses oreilles et examina le livre. Il s'intitulait « Autoroute du Sud de l'Amérique ». « Le père est un voleur de bibliothèque, » fit remarquer Heidi. « Vous êtes le genre de personne qui fait grimper les tarifs d'abonnement. »«
Je le rapporterai un jour, » dit Callahan, et il le pensait. « Ce qui importe, c'est que j'ai été chanceux au deuxième essai. Regardez page 119. »
Heidi s'exécuta. La photographie montrait une église blanche et austère posée sur une colline au-dessus d'un chemin de terre. Temple méthodiste d'East Stoneham, disait la légende, construit en 1819. On les ajoute. Ça fait 19, bien entendu, pensa Heidi. Il en parla à Callahan qui sourit et hocha la tête.
« Vous n'avez rien remarqué d'autre ?»«
Bien sûr que si. » »« Il ressemble à la salle du conseil de la Cale. »«
Ouais, on les croirait presque jumeaux. »
Callahan inspira profondément.
« Prêt pour le deuxième round ?»«
J'imagine, oui. »«
Celui-ci sera plus long, mais vous devriez avoir de quoi tuer le temps avec toute cette lecture. »
« Je crois pas que j'arriverai à lire, » fit Heidi. « Je suis trop nerveux, bordel. Excusez mon langage. Je vais peut-être essayer de regarder ce qu'il y a dans la doublure du sac. » Mais Heidi oublia ce qu'il y avait dans la doublure du sac. C'est Susanna qui finit par le trouver. Et à ce moment-là, elle n'était déjà plus elle-même. 3. Repensant à 1977 et tenant le livre ouvert à la page de la photo, Callahan franchit la porte dérobée pour la deuxième fois. Il ressortit au milieu d'une belle matinée ensoleillée de Nouvelle-Angleterre. Le temple était bien là, mais il avait été repeint depuis l'époque de la photo prise pour Autoroute du Sud de l'Amérique, et la route avait été pavée. Juste à côté, il vit un bâtiment qui n'était pas sur la photo. L'épicerie d'East Stoneham. Bien. Il marcha jusque-là, suivi par la porte flottante, se remémorant de ne pas dépenser l'un des quarters qui venait de sa propre cassette, que s'il le devait absolument. Celui que lui avait donné Jake datait de 1969, ce qui allait. Le sien était de 1981, et ça n'allait pas. En passant devant les pompes à essence mobiles, où on vendait l'essence ordinaire à 13 cents le litre, il le glissa dans sa poche arrière. Lorsqu'il pénétra dans l'épicerie, qui sentait exactement comme celle de Touques, une cloche tinta. À gauche de l'entrée, un présentoir de Press Herald de Portland lui permit de voir la date, et il eut un petit choc désagréable. Au moment où il avait pris le livre à la bibliothèque publique de New York, moins d'une demi-heure auparavant, d'après son horloge interne, on était le 26 juin. Et ses journaux devant lui étaient datés du 27. Il en prit un pour lire les gros titres, une inondation à la Nouvelle-Orléans, les troubles habituels parmi les dingues et les meurtriers dans l'Est, et il nota le prix 10 cents. Très bien. Il obtiendrait de la monnaie sur son quarter de 1969. Peut-être même qu'il s'achèterait un morceau de bon vieux salami purement américain. Quand il s'approcha du comptoir, le vendeur lui lança un regard jovial.
« Ce sera tout ?» demanda-t-il. « Eh bien, je vais vous dire, je ne dirai pas non si vous m'indiquez la poste, si ça vous sied. »
Le vendeur haussa un sourcil et sourit.
« Vous avez l'air du coin, pourtant. »«
Vraiment ?» demanda Callahan en souriant lui aussi.
« Yep,
En tout cas, la poste n'est pas bien loin. En à moins d'un kilomètre en descendant la l'autre bas de la gauche. » Il prononçait le mot « route »,« loute », exactement comme Jimmy Jaffers l'aurait fait. « Bon. Et vous vendez du salami à la tranche ?»«
Je vous le vendrai sous la forme que vous voudrez acheter, » répondit aimablement le vendeur.
« Vous êtes ici en Vauconce ?»
Ce qui donna en Vauconce, et Callahan s'attendit presque à l'entendre ajouter « Dites-le-moi, je vous prie. »
« On pourrait dire ça, j'imagine, » répondit Callahan.
4. Dans la grotte, Eddie se débattait contre le bruit métallique, assourdi mais exaspérant du carillon, tout en jetant de temps à autre un coup d'œil par la porte entrouverte. Callahan descendait une route de campagne. Super pour lui. Pendant ce temps, peut-être que le petit garçon de Madame Dean pourrait essayer de faire un peu de lecture. D'une main froide et légèrement tremblante, il saisit un livre dans la malle, au-dessous d'un volume qui avait été retourné et qui aurait sans doute changé sa journée s'il l'avait pris à la place. Au lieu de quoi, il se retrouva avec 4 nouvelles de Sherlock Holmes.
Ah, Holmes! Un autre grand sage et éminent junkie.
Eddie opta pour une étude en rouge et se mit à lire. De temps à autre, il baissait les yeux vers la boîte où la 13e noire diffusait sa force en pulsations étranges. Il ne voyait que l'arrondi du cristal. Au bout d'un moment, il oublia sa lecture et se concentra sur la boule de verre de plus en plus fascinée. Mais le carillon s'estompait, ce qui était plutôt bien. Non, il finit par ne presque plus les entendre. Une voix passa à travers les balles et se mit à lui parler. Eddie écouta. 5.
Excusez-moi, madame, mais...
La postière devait avoir une petite 60aine d'années, et ses cheveux étaient d'un blanc bleuté parfait, comme si elle sortait de chez le coiffeur.
« Je voudrais laisser une lettre pour des amis, » dit Callahan. « Ils sont de New York et seront probablement post-restantes. »
Ils en avaient discuté avec Eddie, et Callahan avait suggéré que Tower ne serait pas assez stupide pour laisser son nom à la poste, alors qu'il était en cavale et recherché par une bande de truands qui voulaient lui faire sa fête. Eddie lui avait rappelé l'attitude de Tower avec ses foutues premières éditions, et Callahan avait finalement accepté de faire un essai à la poste.
« Des vacanciers, savez-vous ? » acquiesça Callahan.
Mais il tomba un peu à côté.
« Je l'ai un bien. Il s'appelle Cabin Tower et Aaron Dipno. »
« Je suppose que vous ne donnez pas ce genre d'informations au premier type venu, mais... »«
Oh ! On s'embête pas avec ce genre de choses, policy !»
dit-elle. Par ici était devenu policy.
« Je vais vérifier la liste. On a tellement de monde entre le jour du souvenir, la fête du travail !»
Elle prit un bloc-notes sur le comptoir devant elle. Des tas de noms écrits à la main. Elle tourna la première page, puis la deuxième.
« Dipno !»
s'exclama-t-elle.
« En voilà déjà un !
On va voir si on peut trouver l'autre. »«
Peu importe, » dit Callahan.
Soudain, il se sentit mal à l'aise, comme si quelque chose avait mal tourné de l'autre côté. Il jeta un œil par-dessus son épaule et ne vit que la porte et la grotte. Et Eddie, assis là, en tailleur, un livre sur les genoux.
« Vous avez quelqu'un aux fesses ?»
demanda la postière, le sourire aux lèvres. Callahan lâcha un rire qui lui parut forcé et stupide, mais la postière sembla ne rien remarquer.
« Si je voulais laisser un mot à Aaron Dipno dans une enveloppe timbrée, est-ce que vous pourriez veiller à ce qu'il l'ait quand il viendra, ou quand M. Tower viendra ?»«
Oh,
pas besoin d'acheter un timbre, dit-elle d'un ton rassurant. Je le ferai bien volontiers.
Oui, c'était bien comme à la Cala. Soudain, il ressentit une grande tendresse pour cette femme. Beaucoup, beaucoup. Callahan se rendit au comptoir près de la fenêtre. La porte eut comme une hésitation quand il se retourna. Et il gribouilla un mot, commençant par se présenter comme un ami de l'homme qui avait aidé Tower lors de la visite de Jay Condolini. Il dit à Dipno et à Tower de ne pas déplacer leur voiture et de laisser les lumières allumées dans l'endroit où ils se trouvaient, puis de se rendre à proximité, dans une grange, un campement abandonné ou même un cabanon. De le faire immédiatement. Laissez un mot avec des indications sur le lieu où vous êtes, sous le tapis de sol de votre voiture, côté conducteur ou sous la marche du porche à l'arrière de la maison, écrivit-il. Nous vous contacterons. Il espérait qu'il faisait ce qu'il fallait. Il n'avait pas poussé si loin la discussion, et il ne pensait pas avoir à faire lui-même le boulot d'agent secret. Il signa comme Roland le lui avait indiqué, Callahan de la lignée d'Elde. Puis, malgré son malaise croissant, il ajouta une ligne déchirant presque le papier en écrivant « Et que ce soit votre dernier passage par la poste, comment peut-on être aussi stupide ?» Il mit le mot dans une enveloppe, la ferma et écrivit dessus « Aaron Dipno ou Calvin Tower, poste restante. » Il l'apporta au comptoir.
« Je serai content d'acheter un timbre, » lui répéta-t-il.
« Nope, donnez-moi 2 cents pour l'enveloppe. Ça ira comme ça. »
Il lui tendit la pièce de 5 cents qu'on lui avait rendue à l'épicerie, ramassa ses 3 cents de monnaie et se dirigea vers la porte. La porte normale.
« Bonne chance à vous !»
lança la postière. Callahan tourna la tête vers elle et la remercia. Ce faisant, il aperçut la porte dérobée, toujours ouverte. Mais il ne vit pas Eddie. Eddie était parti. 6. Sitôt sorti de la poste, Callahan se tourna de nouveau vers la porte. D'habitude, il ne pouvait pas faire ça. D'habitude, elle tournait en même temps que lui, comme sa partenaire de danse. Mais elle semblait savoir à quel moment il était prêt à rentrer. Alors il pouvait lui faire face. À la seconde où il fut de retour, il fut assailli par le carillon Vahadash, comme s'il gravait à l'eau forte des motifs à la surface de son cerveau. Des entrailles de la grotte, sa mère s'écria
« Dis donc, Danny, t'es parti en laissant ce gentil garçon se suicider. Il sera au purgatoire pour toujours et c'est ta faute !»
Callahan l'entendit à peine. Il se précipita à l'entrée de la grotte avec toujours sous le bras le Press Herald qu'il avait acheté à l'épicerie d'East Stanham. Il eut juste le temps de voir du coin de l'œil pourquoi la boîte ne s'était pas refermée, le laissant pour toujours prisonnier de l'autre côté à East Stanham dans le Maine aux environs de 1977. Un gros livre était coincé dedans. Callahan eut même le temps d'en lire le titre. 4 nouvelles de Sherlock Holmes. Puis il bondit dehors en plein soleil. Au début, il ne vit rien d'autre que le rocher sur le sentier qui menait à l'entrée de la grotte, et il fut presque certain que sa mère avait dit vrai. Puis il tourna la tête à gauche et aperçut Eddie, à 3 mètres environ, au bout d'un étroit chemin qui serpentait jusqu'au sommet, au-dessus du ravin. Sa chemise claquait autour de la crosse du gros revolver de Roland. Lui, dont les traits étaient fins et malicieux, avait le visage gonflé et une expression vide. C'était le visage hébété d'un guerrier en déroute. Ses cheveux voltaient autour de ses oreilles. Il vacilla vers l'avant, puis sa bouche se pinça et ses yeux reprirent soudain un peu de vie. Il se rattrapa à une saillie rocheuse et vacilla vers l'arrière.
« Il se débat !» pensa-t-il. pensa Callahan. Et je suis sûr qu'il mène le bon combat, mais il est en train de le perdre. S'il appelait Eddie, il risquait de le faire tomber. Callahan le sentait avec son intuition de pistolero, toujours plus aiguisée et plus fiable en temps de crise. Au lieu de hurler, il bondit sur le sentier qui montait et arriva juste à temps pour attraper le bout de la chemise d'Eddie, tandis que ce dernier basculait de nouveau vers l'avant, cette fois après avoir lâché la saillie rocheuse et s'être porté la main sur les yeux en un geste involontairement comique qui semblait dire « Adieu, monde cruel ». Si la chemise s'était déchirée, Eddie Dean aurait sans aucun doute raté la partie suivante du grand jeu du cas, mais peut-être que même les chemises de homespun fabriquées à Calabrin Sturgis, car c'est ce qu'il portait, servaient-elles aussi le cas. Quoi qu'il en soit, la chemise ne se déchira pas, et Callahan se raccrocha à cette force physique qu'il avait bâtie au cours de ses années sur la route. Il tira Eddie vers l'arrière et le rattrapa dans ses bras, mais sans pouvoir empêcher la tête du jeune homme d'aller cogner contre la saillie rocheuse à laquelle il s'était accroché quelques secondes plus tôt. Il battit des cils et posa sur le père un regard de familiarité un peu stupide. Il marmonna ce qui parut à Callahan du charabia incompréhensible.
« L'a dit que je pouvais voler ?»
Callahan l'attrapa par les épaules et le secoua. « Quoi ? Je ne vous comprends pas !» Il n'y tenait pas particulièrement, mais il fallait bien établir un contact. Ramener Eddie de là où cette chose maudite l'avait emmené. « Je ne comprends pas !» Cette fois, la réponse se fit plus claire.
« Elle a dit que je pouvais voler jusqu'à la tour. Vous pouvez me laisser y aller ? Je veux y aller !»
« Vous ne pouvez pas voler, Eddie !» Il n'était pas sûr qu'il l'avait entendu, aussi baissa-t-il la tête, très bas, jusqu'à appuyer son front contre celui d'Eddie, comme des amoureux. « Elle essayait de vous tuer !»«
Non !» commença Eddie.
Puis la prise de conscience sembla soudain envahir son regard. À quelques centimètres à peine de ceux de Callahan, ils s'écarquillèrent. « Oui ?» Callahan releva la tête sans cependant lâcher les épaules d'Eddie.
« Ça va maintenant ?»«
Oui, je crois du moins. »« Je m'en sortais bien, mon père, je vous le jure. Je veux dire, le carillon me faisait la totale, mais à part ça, je m'en tirais bien. J'ai même pris un livre, je me suis mis à lire. »
Il regarda autour de lui.
« Bon Dieu, j'espère que je ne l'ai pas perdu. Tower va me scalper. »«
Vous ne l'avez pas perdu. Vous l'avez coincé dans la boîte et vous avez fichtrement bien fait. Sinon la porte aurait claqué et vous seriez 200 mètres plus bas à l'état de confiture de fraises. »
Eddie regarda par-dessus le vide et blêmit. Callahan eut juste le temps de regretter sa franchise avant qu'Eddie ne vomisse sur ses bottillones toutes neuves.
7.
« Elle m'a pris par surprise, mon père, » raconta Eddie quand il put de nouveau parler. « Elle m'a bercé, et puis elle m'a sauté dessus. »«
Ouais. »«
Est-ce que... vous avez pu obtenir quelque chose pendant que vous étiez là-bas ?
S'ils ont ma lettre et qu'ils font ce que je dis, ce sera énorme. Vous aviez raison. D'hypnose et inscrit poste restante. Au minimum. Pour Tower, je ne sais pas.
Callahan secoua la tête avec colère.
Je pense qu'on va apprendre que c'est Tower qui a convaincu d'hypnose de le faire, s'y est dit.
Carl Tower ne voit toujours pas dans quel drap il s'est mis, et après ce qui vient de m'arriver, ce qui a failli m'arriver, j'ai une certaine compassion pour ce genre de réaction. »
Il jeta un regard en direction du journal que Callahan tenait toujours sous le bras.
« C'est quoi ça ?»«
Le journal, » dit Callahan en le tendant à Eddie.
Ça vous dirait un petit article sur Golda Meir ?
8. Ce soir-là, Roland écouta attentivement le récit des aventures d'Eddie et de Callahan dans la grotte de la porte, et ensuite. Le pistolero ne sembla pas tant intéressé par l'expérience limite d'Eddie que par les similitudes entre Calabrine Sturgis et East Stanham. Il demanda même à Callahan d'imiter l'accent de l'épicier de la postière, ce que Callahan, pour avoir autrefois habité le Maine après tout, fit sans difficulté.
« Sais-tu ?» fit Roland. « Puis... »«
Yep. Sais-tu ? Yep. » Il était assis là, à réfléchir, le talon posé contre la rambarde du porche du presbytère.
« Ils vont s'en sortir au moins pour un temps, tu penses ?»
demanda Eddie. « Je l'espère, » répondit Roland. « Si tu veux t'inquiéter pour la vie de quelqu'un, inquiète-toi pour Dipnan. » Si Balassar n'a pas laissé tomber pour le terrain vague, il lui faut garder Tower en vie. Pour lui, Dipno n'est rien de plus qu'un jeton de « surveille-moi ».
Est-ce qu'on peut les laisser comme ça jusqu'après les loups ? Je crois pas qu'on ait le choix.
On pourrait tout laisser tomber et aller à East sur Galoche et le protéger, suggéra fougueusement Eddie. Qu'est-ce que t'en dirais ?
Écoute, Roland, je vais te dire, pourquoi Tower a convaincu son ami de s'inscrire post-restante ? Parce que quelqu'un a un livre qu'il veut, voilà pourquoi. Il était en plein marchandage, et ils en étaient arrivés au moment délicat, quand j'ai déboulé pour le persuader de mettre les voûts.
Mais Tower, bon Dieu, il est comme un chimpanzé avec une poignée de cacahuètes. Il veut pas lâcher.
Il suffit que Balassard le sache, ce qui est sans doute le cas, et il n'aura pas besoin de code postal pour trouver son homme. Mais simplement une liste de gens avec qui Tower est en affaire.
J'espère que si cette liste existe, elle a brûlé dans l'incendie. Roland hocha la tête.
Je comprends, mais on ne peut pas abandonner les gens d'ici, nous avons donné notre parole.
Eddie considéra la question, soupira et secoua la tête.
Oh, et puis... Plus que 3 jours et demi ici, il en restera 17 avant l'échéance du contrat qu'a signé Tower. Les choses tiendront sans doute jusque-là.
Il marqua une pause et se mordit la lèvre.
Peut-être.
Est-ce qu'on doit se contenter d'un peut-être ? Demanda Callahan.
Ouais, fit Eddie. Pour l'instant, on n'a rien de mieux.
9. Le lendemain matin, c'est une Susanna Dean sacrément effrayée qui se tenait dans le cabanon, assise, à attendre que passe la série de contractions. Elle les ressentait depuis un peu plus d'une semaine maintenant, mais c'était de loin les plus fortes. Elle posa la main sur son bas-ventre. Elle trouva sa chair anormalement dure.
« Oh mon Dieu, et si j'accouchais tout de suite, si c'était ça ?»
Elle essaya de se raisonner, de se dire qu'elle n'avait pas perdu les os et qu'on ne pouvait pas commencer le travail avant d'avoir perdu les os. Mais que savait-elle de l'accouchement ? Très peu de choses. Même Rosalita Munoz, sage-femme de grande expérience, n'avait pas été en mesure de l'aider beaucoup, parce que la tâche de Rosalita avait toujours consisté à mettre au monde des bébés humains, dont les mères avaient l'air vraiment enceintes. Susanna avait moins l'air enceinte maintenant qu'à leur arrivée à la cala.
Et si Roland disait vrai à propos de ce bébé-là ?
C'est pas un bébé, c'est un petit gars, et il m'appartient pas, il est à Mia, qui qu'elle soit. À Mia, fille de personne.
Les crampes cessèrent. Son bas-ventre, dur comme pierre, se relâcha. Elle passa le doigt à l'entrée de son vagin. Elle ne remarqua aucun changement. Tout irait bien, au moins pendant quelques jours encore. Il le fallait. Et même si elle avait juré à Roland qu'il n'y aurait plus de secret au sein du quintet, quelque chose lui disait qu'il fallait qu'elle taise celui-là. Quand la bataille commencerait, il serait à 7 contre 40 ou 50, peut-être même 70 si les loups restaient groupés. Il faudrait qu'ils soient tous au mieux de leur forme, au plus fort de leur concentration, ce qui voulait dire pas de diversion, et aussi qu'il faudrait qu'elle soit là pour prendre sa place. Elle remonta son jean, le reboutonna et ressortit en plein soleil, se frottant machinalement la tempe gauche. Elle vit le nouveau verrou sur la porte du cabanon, comme Roland l'avait demandé, et un sourire se dessina sur ses lèvres. Puis elle baissa les yeux vers son ombre et son sourire se figea. Quand elle était entrée dans le cabanon, sa dame d'ombre s'étirait sous la lumière de 9 heures du matin. À présent, il semblait indiquer que, si midi n'était pas passé, il n'allait pas tarder.
« C'est impossible. Je suis resté que 5 minutes là-dedans, juste le temps de faire pipi. »
C'était peut-être vrai. Peut-être était-ce Mia qui s'était tenue là tout le reste du temps.
« Non, dit-elle, ça se peut pas. »
Mais Susanna pensait que si. Mia n'était pas dominante, pas encore, mais elle était en pleine ascension. Se tenant prête à prendre le dessus, à passer sur le devant de la scène si elle le pouvait.
« Je vous en supplie, »
pria-t-elle, s'appuyant d'une main contre le mur du cabanon pour se soutenir.
« Rien que 3 jours, mon Dieu. Donnez-moi 3 jours en étant moi-même, que nous puissions faire notre devoir pour les enfants d'ici, et après, faites ce que vous voudrez, tout ce que vous voudrez, mais je vous en supplie. 3 jours, c'est tout, »
murmura-t-elle. « Et s'il nous achève, ça n'aura pas d'importance.
3 jours de plus, mon Dieu, écoutez-moi, je vous prie. »